William Edmondson, le marteau irlandais, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher en morceaux? Jervin 3:29. Je suis né à Little Musgrove, dans le Westmoreland, au nord de l'Angleterre, en l'année 1627. Les noms de mon père et de ma mère étaient John et Grace Edmondson. Mon père était fort estimé parmi les hommes qui le connaissaient, et pieux selon ce qu'il connaissait. J'étais le plus jeune des 6 enfants qu'eurent mes parents. Ma mère mourut lorsque j'avais environ 4 ans, et mon père aussi lorsque j'avais environ 8 ans. Nous fûmes laissés aux soins de mon oncle, frère de ma mère, qui nous traitait durement. Mes frères et sœurs le quittèrent, mais je demeurai avec lui plusieurs années, étant jeune. Mon frère aîné, héritier du bien que mon père avait laissé, lorsqu'il eut atteint l'âge de 21 ans, avec le mari de ma sœur aînée, intenta un procès à mon oncle au sujet de nos héritages et d'autres torts et injustices, et ils y dépensèrent beaucoup d'argent. Je fus placé en apprentissage à York, au métier de charpentier et menuisier, où je vécus un certain nombre d'années. Pendant ce temps, le Seigneur commença à œuvrer dans le cœur de beaucoup de personnes dans cette ville, de sorte que de grandes ouvertures dans les choses de Dieu se produisirent, tant chez les prédicateurs que chez leurs auditeurs. Alors le Seigneur commença à me visiter par ses jugements et à placer mes péchés devant moi. Bien des fois je fus sous de grands exercices au sujet de mon salut, ainsi que concernant l'élection et la réprobation. Beaucoup de choses pesaient si lourdement dans mon esprit au sujet de la religion que j'étais souvent abattu dans mon âme, et, lors du culte public dans l'église à clocher, il arrivait que les jugements du Seigneur s'emparent lourdement de moi. Une fois, pendant le culte public, la main du Seigneur fut si fortement sur moi que je versai une telle abondance de larmes, en pleurant et en déplorant mon état misérable, que le prêtre et l'assemblée s'en aperçurent, mais personne ne me dirigea comme il fallait vers le médecin qui pouvait guérir mon esprit blessé. Vers ce temps-là, j'entrai dans l'armée du Parlement astérisque et j'y demeurai pendant une partie de la guerre entre le roi et le Parlement, et quand celle-ci fut terminée, je partis en Écosse sous Oliver Cromwell en l'année 1650, et le Seigneur recommença avec moi. Bien des fois ses lourds jugements s'emparaient de moi et m'abattaient en me faisant considérer l'état de vie que je menais et quelle en serait la fin. Et parfois ses miséricordes jaillissaient dans mon cœur pour mon grand rafraîchissement et faisaient couler des larmes de joie et d'aide. Et parfois, lorsque j'avais été en service la majeure partie du jour et que je me couchais la nuit dans ma tente, s'élevaient alors dans mon esprit les dangers imminents que j'avais traversés ce jour-là, les échappées étroites par lesquelles ma vie avait passé, et ce qu'il serait advenu de mon âme si j'étais tombé dans cette incertitude quant à mon bonheur futur. Alors je prenais des résolutions de me tourner vers le Seigneur par la repentance et l'amendement de vie. Mais lorsque l'action se présentait dans laquelle j'étais alors engagé, je asterisque le corps législatif anglais, le Parlement, était composé de puritains. Le roi Charles était épiscopalien. Il s'opposait sur la question de savoir qui avait le pouvoir de faire quoi, ce qui mena à une sanglante guerre civile anglaise. L'armée des puritains du Parlement contre l'armée soutenant le roi, les royalistes. Les puritains avaient une aversion fondamentale pour la pompe et la formalité du roi et de son église anglicane. En l'année 1651, l'armée écossaise marcha vers l'Angleterre. Nous la suivîmes, l'engageâmes à Worcester et renversâmes son armée. Après le combat, mon esprit fut troublé à cause de ma vanité, car le Seigneur avait encore préservé ma vie. Mais je fuyais le jugement et je me réjouissais aux dépens du témoin de Dieu dans ma conscience, qui témoignait contre moi. De là, on nous commanda à l'île de Man, qui nous fut livrée, et au bout de 2 semaines nous revînmes en Angleterre et fûmes cantonnés dans le Derbyshire, à Chesterfield et dans les villes d'alentour. Le discours commun de toutes sortes de personnes portait alors sur les Quakers, et divers récits couraient à leur sujet. Les prêtres partout étaient en colère contre eux, et les gens les plus grossiers étaient avides de raconter d'étranges histoires à leur propos, mais plus j'en entendais parler, plus je les aimais, bien que je n'eusse pas encore eu l'occasion de parler à aucun d'eux. Un jour de marché à Chesterfield, j'étais dans une taverne avec plusieurs de mes compagnons, et 2 femmes du peuple appelées Quakers parlaient des choses de Dieu aux gens du marché. Je n'entendis parler d'elles qu'après leur départ, mais le prêtre de la ville, et plusieurs avec lui, les injurièrent. Quand ils eurent fini, elles vinrent à la taverne, dans la salle où nous étions, moi et mes compagnons. C'était une grande salle à manger, où le prêtre se vantait de ce qu'il avait fait aux 2 femmes, pensant que nous le louerions, mais moi, j'aimais entendre parler des femmes, et je haïssais sa conduite envers elles. Un jeune homme, marchand alors présent, qui était fréquemment mon compagnon, parlait souvent des gens appelés Quakers et disait que leurs principes étaient la vérité. Il entendit le prêtre se vanter de sa conduite injurieuse envers les 2 femmes, répondit et dit « C'est une pauvre victoire qu'il a remportée sur 2 pauvres femmes », ce dont le prêtre fut très irrité et se mit à tempêter. Mon esprit se souleva contre lui, je me levai de mon siège et demandai au prêtre et à ceux qui étaient avec lui s'ils étaient venus se créler. Je dis, « Si c'est le cas, vous en aurez assez. » Mais le prêtre répondit, « Non, pas avec vous, monsieur. » Je leur dis de quitter la salle, ce qu'ils firent bientôt, mais ces choses avaient de l'importance pour moi. Et plus j'entendais parler de ce peuple, plus je l'aimais, et des désirs ardents renaissaient, afin que le Seigneur me montre le chemin de la vérité. Après quelque temps passé dans diverses épreuves, nous marchâmes de nouveau vers l'Écosse, et alors j'avais la charge de quelques hommes pour recruter d'autres compagnies alors en Écosse. Je les fis marcher avec notre régiment et les livrai en Écosse. Puis je quittai l'armée, revins en Angleterre et rendis visite à mes parents dans le Nord. De là, je montai à cheval vers le Derbyshire et j'épousai une jeune femme à laquelle j'étais auparavant fiancée. Après quelque temps, j'allai m'établir dans le Derbyshire comme boutiquier, alors mon frère, qui était soldat en Irlande, vint en Angleterre voir ses proches. Il me recommanda vivement l'Irlande, me persuadant d'y aller vivre, ce que ma femme et moi décidâmes de faire. La troupe dans laquelle mon frère servait était cantonnée près de Waterford. Nous proposâmes de nous établir comme négociants à Waterford et d'habiter à un endroit à 2 miles de là, d'où nous pourrions aller et revenir dans notre bateau. Nous attendions une vie profitable pour nous, tout en pouvant poursuivre la religion. Ainsi, quand mon frère retourna en Irlande, j'envoyai avec lui un petit lot de marchandises, et peu de temps après, ma femme et moi, avec un serviteur, allâmes en Irlande avec une plus grande quantité de marchandises. Nous passâmes par le Westmorland pour dire adieu à nos proches, et certains d'entre eux nous accompagnèrent à Whitehaven, où nous prîmes passage sur un navire qui aborda à Dublin. Alors toutes nos grandes promesses tombèrent à néant, et le Seigneur, qui avait souvent lutté avec moi tant par miséricorde que par jugement, avait pour moi un autre service, dont je ne savais rien et auquel j'étais entièrement étranger. Car à Dublin, je m'attendais à ce que mon frère eût déjà fait quelques préparatifs pour nous et notre commerce, mais au lieu de cela, la troupe, et lui avec elle, furent envoyés en marche vers le nord. Je lui écrivis et lui fis savoir que nous avions débarqué. Entre-temps, j'étais fortement incliné à m'établir à Dublin, le commerce y était alors très actif, et les maisons à des conditions faciles parce que l'on n'était pas longtemps après la peste. Mais j'en fus empêché par une main secrète que je ne connaissais pas alors, qui me préserva de la tromperie des richesses dont, selon toute probabilité, j'aurais été chargé comme d'une épaisse argile, et j'aurais ainsi été empêché de servir le Seigneur comme d'autres le sont. Lorsque mon frère reçut ma lettre, il vint à Dublin avec des chevaux pour nous emmener dans le nord, à Antrim, où leurs troupes devaient être cantonnées. J'y pris une maison, et mon frère demeura avec moi. Les officiers de la troupe étaient très aimables. Ils souhaitaient que je monte dans la troupe et que je reçoive une solde régulière, tout en pouvant suivre mon propre commerce avec un statut exempt de droit, car ils auraient émis un ordre de leur propre chef, nul n'étant alors admis dans les troupes sans l'ordre du général. Mais je refusai et n'acceptai pas leurs offres bienveillantes, car mes inclinations allaient vers la religion, et ma conscience commençait à être éveillée par la main du Seigneur, un jugement mêlé de miséricorde qui me préservait. Je vendis bientôt les marchandises que j'avais apportées et repartis promptement pour l'Angleterre en acheter d'autres. Je me rendis dans le nord de l'Angleterre parmi mes proches. Alors George Fox et James Naylor étaient dans cette région. Comme James Naylor tenait une réunion à environ 3 miles de l'endroit où j'étais, j'y allai avec mon frère aîné Thomas et un autre parent. J'avais un ardent désir de m'entretenir avec quelques-uns de ces gens, conservant de l'amour pour eux et une bonne opinion, d'après les premiers rapports que j'en avais entendus. Je me réjouis de cette occasion, et nous fûmes tous trois convaincus de la bienheureuse vérité du Seigneur, car le témoin de Dieu dans nos cœurs répondait à la vérité de ce qui était dit, et les anciennes démarches du Seigneur envers moi me revinrent vivement en mémoire. Alors je sus que c'était la main du Seigneur qui avait lutté avec moi pendant longtemps. C'était en l'année 1653. Alors mon intelligence commença à s'ouvrir, et de nombreuses écritures me furent rappelées, que j'avais souvent lues sans les comprendre, mais maintenant, étant tournée vers une mesure de l'Esprit du Seigneur manifestée dans mon cœur, qui souvent m'avait repris du mal dans mon ignorance, je sus que c'était la vérité qui conduit à toute vérité, conforme aux saintes écritures de la loi et des prophètes, du Christ et de ses apôtres, et je pensais que quiconque l'entendrait déclarer l'accepterait comme vrai, tant cela m'était évident. Quelques jours après avoir été ainsi convaincu de la bienheureuse vérité, la puissance du Seigneur s'empara de moi par son esprit, et je fus amené sous de grands exercices de l'esprit et de l'âme. Toutes mes facultés furent prises dans cet exercice, car la main du Seigneur était puissante sur moi, en jugement mêlé de miséricorde, au point que mes anciennes voies furent comme murées. Mais j'aimais les jugements du Seigneur, car je savais que j'avais péché contre lui et que je devais être purifié par le jugement. Et quoique je fusse sous cet exercice de conscience devant Dieu, je poursuivais néanmoins mon commerce en Angleterre et expédiais mes marchandises pour qu'elles soient débarquées à Carrickfergus ou à Belfast. Récit de plusieurs épreuves difficiles qu'il traversa, intérieurement et extérieurement, entre sa conviction et l'établissement d'une réunion publique à Lurgan. Pendant que j'étais en mer, Je raisonnais fortement en moi-même pour économiser les droits sur mes marchandises, car j'en avais l'occasion. La troupe à laquelle appartenait mon frère, cantonnée à Carrickfergus et à Belfast, m'aurait aidé de jour comme de nuit. Mais je n'osais pas le faire, ma conscience ayant été éveillée à plaider pour la vérité, la justice et l'équité. Pourtant, il y eut une grande lutte entre la conscience et le moi, et dans ce conflit, de nombreuses écritures s'ouvrirent à mon intelligence, montrant que les droits et taxes doivent être payés. Et bien que le moi lutta durement pour dominer, il fut finalement renversé, et le jugement de la vérité prévalut. Quand je débarquai à Carrickfergus, un cavalier me prêta volontiers son cheval, et je rentrai ce soir-là à Antrim, où vivait ma femme. Lorsque j'arrivai à la porte, mon frère sortit pour me saluer avec ses compliments habituels, mais la puissance du Seigneur s'empara de moi à cet instant de telle manière qu'il en fut frappé de stupeur. Nous entrâmes et nous assîmes en silence. J'étais profondément brisé dans la puissance du Seigneur devant eux, et mon frère ne fit aucune opposition, mais reçut la vérité et s'y joignit. Je retournai à Carrickfergus pour faire débarquer mes marchandises, mais les officiers exigèrent un serment attestant la véracité de mes bordereaux, et ne permettant pas le débarquement sans cela, ils auraient saisi mes biens. Je leur dis que je ne pouvais pas jurer, que cela était contraire au commandement du Christ, ce qui leur parut étrange, n'ayant rien rencontré de semblable auparavant, mais la vérité du Seigneur et le témoignage étaient précieux pour moi, et après quelque temps, avec beaucoup de difficultés, j'obtins un ordre pour amener mes marchandises au bureau des douanes. Ma conduite envers les officiers et les autres ici fut pour eux un sujet d'étonnement, et provoqua beaucoup de discussions, et divers bruits se répandirent au sujet des Quakers, et de moi en particulier. Après être rentré chez moi avec mes marchandises, la main du Seigneur fut lourde sur moi jour et nuit, de sorte que je travaillais sous une grande guerre et un conflit entre la chair et l'esprit, et j'étais profondément abattu par des peines et des troubles d'esprit, mais personne là ne comprenait la cause de mes peines et de mes troubles, ni ne disait un mot de consolation pour me soulager. J'aurais parcouru de grandes distances pour la compagnie d'un ami expérimenté. Le sommeil me quitta, et souvent la nuit, dans une grande détresse d'esprit, en criant et en pleurant, je souhaitais le jour, et lorsque le jour venait, mes peines demeurant, je souhaitais encore la nuit. Dans cet état inquiet, je n'avais personne ayant foulé ce chemin avec qui converser, de sorte que le bruit de ma condition se répandit au loin parmi les professants. Beaucoup venaient me regarder, ergoter astérisque et contester contre la vérité, et certains disaient que j'étais ensorcelé, d'autres que je devenais fou. Ainsi les propos et rumeurs à mon sujet se répandirent très largement parmi les gens. Astérisque ergoté, c'est disputer avec des arguments doctrinaux superficiels, par exemple en disant qu'il lui faudrait être baptisé d'eau comme solution, ou lui disant qu'il n'y a pas de raison qu'il souffre, le Christ ayant déjà souffert pour lui. Vers ce temps-là, un certain Milbausfield vint d'Angleterre en Irlande. George Fox avait visité sa maison, il avait été dans une certaine mesure convaincu de la vérité, et il s'en était allé avec elle. Il parlait beaucoup de religion, mais il était un ennemi et un étranger à la croix du Christ. Ayant entendu parler de moi et de l'épreuve dans laquelle j'étais, il vint me voir. Je n'étais pas chez moi lorsqu'il vint, mais il parla à ma femme et parla en bien des Quakers et de leurs principes, paraissant très heureux d'avoir trouvé dans ce pays un compagnon tel que moi, et du réconfort que nous aurions l'un de l'autre. Quand je rentrai à la maison, ma femme me dit qu'il était venu et l'entretien qu'il avait eu avec elle. J'en fus heureux, et je pris bientôt mon cheval et parcourus 12 000 pour aller le voir, et je restai avec lui toute la nuit. Il parla abondamment de religion, et de l'œuvre intérieure de Dieu dans l'homme par son esprit, et parla bien de George Fox et de James Naylor, et de leur doctrine, ce qui me plut. Mais il dit qu'il connaissait ces choses avant de les voir ou de les entendre, et il parla beaucoup de sa connaissance de Dieu et du Christ. Je restai en silence, attentif à l'écouter, car j'étais abattu, pauvre et bas dans mon esprit, et pourtant heureux d'avoir rencontré un homme si savant dans les choses de Dieu et son œuvre en l'homme par son esprit, pour me conseiller dans mes grandes troubles d'un esprit blessé. Il me conseilla donc d'être joyeux et gai, et de ne pas regarder à ces troubles intérieurs qui me courbaient. C'était l'œuvre de l'ennemi pour me conduire au désespoir et me détruire, en m'engloutissant dans une grande affliction. Et comme il était manifestement évident que Dieu avait de l'amour pour moi, pour faire de moi un vase d'élection de miséricorde, il m'aimerait jusqu'à la fin, et rien en moi ne pouvait empêcher son amour, ni contrecarrer sa volonté. Cette doctrine prétendait pouvoir me guérir sans la croix du Christ ni le renoncement à soi-même. Elle plaisait à ma volonté et à mes désirs charnels, car j'aimais la vérité dont j'étais convaincu et j'aurais voulu la voir, avec mes charnalités, mes libertés de la chair, mes plaisirs mondains et mes profits. Ainsi, lorsque la puissance du Seigneur s'élevait pour me courber sous sa croix, je raisonnais contre elle avec les arguments mentionnés plus haut, par lesquels j'échappais au jugement. Mais cet apaisement et cette guérison légère ne durèrent qu'environ une semaine, car le Seigneur ne voulut pas me laisser ainsi, loué soit son nom à jamais. Sa main miséricordieuse me préserva, et sa puissance reprit fermement mon cœur et mes parties intérieures, me courbant sous ses jugements et ouvrant l'œil de mon intelligence, me montrant clairement ce qui était vivant en moi et s'opposait à la volonté de Dieu, et devait donc être crucifié. Alors je vis où en était Bousfield, et tout son esprit, et les blessures de mon esprit agité s'ouvrirent plus largement qu'auparavant. La légère cure du major Bousfield fut entièrement gâtée, et le faux repos dans lequel il m'avait établi fut ôté. Je n'avais désormais personne à qui me fier, sinon le Seigneur, pour conseil et instruction. Son soin se manifesta grandement pour ma préservation, ma rédemption et mon enseignement, au travers de nombreuses tentations et de profondes afflictions qui m'atteignirent de plusieurs manières, avec beaucoup d'opposants et de contradicteurs. J'étais faible, mais la force du Seigneur est parfaite dans la faiblesse, et son esprit et sa puissance augmentèrent en moi par l'obéissance à la croix du Christ, dans laquelle j'étais exercé chaque jour, et par laquelle je grandis dans la connaissance de l'œuvre du Seigneur pour faire de moi un vase selon son dessein. Au printemps suivant, je déménageai avec ma famille d'Antrim pour vivre dans le comté d'Armagh. Là, j'acquis une maison et des pâturages pour mon bétail, et je tins une boutique de quelques marchandises, où je devins le sujet de conversation et de curiosité des gens. Les professants croyants déclarés au Christ et aux Écritures me surveillaient de près pour trouver quelque chose contre moi et contre les principes de vérité que je professais, mais le Seigneur me fortifia dans ma vigilance sur mes paroles et mes actes, et coupa ainsi l'occasion pour eux de discréditer la vérité et moi. En ces jours-là, usé d'un langage vrai, simple et approprié, comme « toi » et « tu » pour une seule personne, et garder son chapeau, étaient des choses étranges pour les gens, et peu pouvaient les tolérer en aucune occasion, mais ils répondaient par des paroles injurieuses et parfois par des coups ou en jetant des pierres. Avoir un seul prix pour tous en vendant les marchandises astérisques et s'en tenir au premier prix demandé sans marchander, était une grande pierre d'achoppement pour la plupart des gens, et les tenait à distance de l'achat pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'ils voient mieux la justice de cette manière de faire. Toutes choses étaient rudes et âpres dans le monde, et la croix du Christ était une folie et une pierre d'achoppement pour eux. Astérisque, c'est un avantage oublié dont nous jouissons tous. La fixation des prix de tout, y compris des vêtements et de la nourriture, était négociée ou marchandée. Les Quakers, suivant le commandement de Jacques de ne faire exception de personne, avaient un seul prix pour tous. Bien qu'étrange au début, l'équité de ce système fut reconnue et devint la norme dans la société occidentale. Nous devons aux Quakers de ne pas avoir à marchander pour tout, ce que l'achat d'une voiture exige encore. Mes exercices et mes épreuves, tant au-dedans qu'au dehors, furent nombreux et de plusieurs sortes, au-delà de ce que je puis exprimer. Les jugements du Seigneur s'approchaient de près de moi. J'en vins à les aimer, et je consentais à attendre le Seigneur dans ses voies. Parfois, lorsque la main du Seigneur était légère sur moi, j'avais peur qu'il ne retire sa main. Alors mes désirs s'élevaient vers le Seigneur pour qu'il ne relâche pas sa main, mais qu'il me sonde à fond, car ses jugements étaient devenus doux à mon goût, et il y mêlait souvent des sources de miséricorde pour ma joie et mon réconfort. Les affaires et les choses du monde me devinrent une peine, bien qu'il y eût des offres et des occasions de m'enrichir, soit par le commerce, soit en prenant des terres à bail, par hypothèque ou par achat, ce que j'aurais pu faire. Mon frère fut convaincu de la vérité, comme auparavant l'avait été ma femme. Lui et moi, nous nous réunissions deux fois par semaine dans ma maison. Quelque temps après, quatre autres furent convaincus, et alors nous étions sept à nous réunir pour attendre Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. La miséricorde et la bonté du Seigneur s'étendaient souvent à nous pour notre réconfort et notre confirmation dans l'apparition de sa bienheureuse vérité reçue dans nos cœurs. De son premier ministère public, de sa visite à George Fox en Angleterre, de l'établissement d'une réunion à Dublin, de son emprisonnement à Omagh et de sa dispute avec un prêtre et un juge de paix du comté, etc. Quelque temps après, John Tiffin fut poussé par le Seigneur à venir en Irlande au service de la vérité. Il vint chez moi, resta un moment et s'assit avec nous dans nos réunions, parlant parfois de quelques mots qui édifiaient. Alors une préoccupation commença à peser sur moi, de voyager avec lui en certains endroits, bien qu'il eût peu de paroles, elles étaient très utiles. Nos sorties vers les foires et les lieux de rassemblement de gens amenèrent beaucoup à s'enquérir des principes et de la religion des Quakers, et parfois nous eûmes des entretiens avec des professants, mais les gens en général étaient très réservés et craintifs à notre égard, de peur d'être trompés. Car les prêtres persuadaient le peuple contre nous en leur racontant des histoires et des mensonges que les prêtres d'Angleterre avaient forgés et répandus, trop nombreux pour être mentionnés ici, et il n'est pas nécessaire de les rapporter, étant imprimés non plus. En ce temps-là, bien peu acceptaient de nous loger chez eux. À Belfast, cette ville de grande profession, il n'y avait qu'une seule auberge ou maison publique qui voulut loger l'un de nos amis, une veuve Partridge qui tenait une maison publique et nous reçut très aimablement. John Tiffin y logea, s'efforçant souvent de trouver une entrée pour la vérité dans cette ville, mais ils résistèrent, se bouchant les oreilles, fermant leurs portes et leurs cœurs contre elle. Près de cette ville habitait un nommé Laze, qui promit de nous laisser nous réunir dans sa maison, et le jour fut fixé. Nous y vîmes donc, mais l'homme était absent de chez lui, comme on nous le dit. Nous supposâmes que c'était à dessein, afin que nous ne nous réunissions pas dans sa maison. Sa femme était orgueilleuse et ne voulut pas nous permettre de nous y réunir. À peu de distance de cette maison, sur la grande route, à un carrefour où se rejoignaient trois chemins, là nous nous assîmes tous trois et tînmes notre réunion. Quand les gens se rassemblèrent autour de nous, nous fûmes pour eux un sujet d'étonnement, et quelques paroles furent dites pour diriger leurs esprits vers l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur. Ces exercices, bien que dans beaucoup de faiblesse et de crainte, répandirent le nom et la renommée de la vérité, et les esprits de bien des gens honnêtes commencèrent à s'y intéresser, et ils virent que les récits que les prêtres leur avaient faits à notre sujet étaient faux, ce qui les rendit plus désireux de nous entendre, et certains furent ajoutés à notre réunion à l'Urgan, alors tenue dans ma maison. Peu après, John Tiffin repartit en Angleterre, mais notre réunion augmenta, et parfois la puissance et l'Esprit du Seigneur me poussaient à dire quelques paroles dans les réunions, ce que je faisais avec crainte, étant sous une grande préoccupation, de peur qu'un mauvais esprit n'ait entré et ne me trompe sous l'apparence d'un ange de lumière, car j'étais conscient de ma propre faiblesse. Maintenant, plusieurs se rassemblaient à notre réunion et furent convaincus et reçurent la vérité. Ainsi, nous établîmes des réunions en plusieurs lieux, car il y avait une grande ouverture parmi les gens. Vers ce temps-là, je ressentis dans mon esprit des attirances à aller en Angleterre pour voir George Fox, que je n'avais pas encore vu. Je traversai donc, et le rencontrai à Bagley dans le Leicestershire, où se tenait une grande réunion d'amis venus de plusieurs endroits. Quand la réunion fut terminée, j'allai vers George Fox, et il fit attention à moi. Nous allâmes dans le verger, et s'agenouillant, il pria. La puissance et la présence céleste du Seigneur étaient là, il avait une tendre sollicitude pour moi. Je lui dis où j'habitais, que plusieurs avaient été convaincus en Irlande, de l'ouverture parmi les gens, dans le nord de cette nation à entendre la vérité proclamée. Il manque d'amis ministres de l'Évangile là-bas. Il écrivit l'épître suivant aux amis, qu'il m'envoya avec moi, à savoir, amis, dans ce qui vous a convaincu, attendez, afin que soit ôté ce dont vous êtes convaincus. Et vous tous, mes chers amis, demeurez dans la vie et l'amour, et la puissance et la sagesse de Dieu, dans l'unité les uns avec les autres et avec Dieu. George Fox, il me dit que, lorsque je serai de retour en Irlande, j'aille vers Edward Burruff et Francis Haughill, car ils étaient allés dans le sud de ce royaume au service de la vérité. Ainsi, après avoir été à Swarthmore et dans quelques autres lieux en Angleterre pour visiter des amis, je retournai en Irlande et lus l'épître mentionnée ci-dessus aux amis dans la réunion. Là, la puissance du Seigneur s'empara de nous, et nous fûmes puissamment secoués et brisés en larmes et en pleurs. Or, les prêtres et les professants du sud de l'Irlande étaient si envieux contre la vérité qu'ils obtinrent de Henry Cromwell, alors Lord Lieutenant d'Irlande, un ordre pour bannir Edward Burruff et Francis Haughill hors de la nation. Et une escorte de soldats fut chargée de les conduire de lieu en lieu jusqu'à ce qu'ils soient embarqués, mais les gardes leur témoignèrent de l'affection et leur permirent de tenir des réunions partout où ils allaient, de sorte que plusieurs reçurent la vérité, et de petites réunions furent établies en divers endroits. Vers ce temps-là, Richard Clayton fut poussé par le Seigneur à venir en Irlande au service de l'Évangile. Il vint, par les directions du Seigneur, directement chez moi, comme il me le dit lui-même, et resta avec nous pour quelques réunions. Il fut ensuite poussé par le Seigneur à voyager vers Coleraine et Londonderry. Moi aussi, je fus poussé à l'accompagner. Il proclama le jour du Seigneur dans la rue à Coleraine, avertissant tous de se repentir. Nous affichâmes plusieurs petits papiers que nous avions écrits en divers endroits. L'un, nous le plaçâmes sur la porte de la maison de culte, mais les professants furent très offensés, nous saisirent et nous bannirent de l'autre côté de l'eau, en donnant l'ordre qu'aucun bateau ne nous ramène. Nous prîmes donc la route vers Londonderry et logeâmes cette nuit-là dans une cabane dans les montagnes. Le lendemain, nous arrivâmes à Londonderry, nous marchions à pied et y eûmes deux réunions, où plusieurs reçurent la vérité. Le gouverneur assista à l'une des réunions, où il fut convaincu, confessant que c'était la vérité que nous déclarions, et pendant notre séjour il fut très bienveillant. Ainsi commença le long et fructueux ministère de William Edmondson. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.